Les aventures de la réforme des marchés financiers devant le Congrès n'ont pas été moins laborieuses que celles de l'Affordable Care Act, mais elles n'ont pas reçu la même attention. Le sujet y était pour beaucoup. Même les parlementaires et les lobbyistes déterminés à enterrer le texte faisaient profil bas, préférant éviter de s'afficher en défenseur de Wall Street sitôt après la crise, et les dispositions les plus fines du projet étaient trop absconses pour susciter l'intérêt de la presse généraliste. Une proposition a toutefois fait les gros titres, celle de Paul Volcker, l'ancien président de la Réserve fédérale, qui prévoyait d'interdire aux banques commerciales de spéculer avec leurs comptes ou de monter leurs propres fonds spéculatifs et officines de capital investissement. D'après Volcker, ce type de clause était une manière simple de rétablir une partie des limites prudentielles imposées par Glass-Steagall aux banques commerciales. Avant que nous ayons le temps de dire ouf, de nombreux parlementaires de gauche ont déclaré qu'ils jugeraient du sérieux de notre volonté de réformer Wall Street à l'inclusion de la règle Volcker dans notre texte. Volcker, 2 mètres de haut, fumeur de cigares bourru et économiste de formation, était inattendu dans le rôle de héros du progressisme. En 1980, lorsqu'il était à la tête de la Fed, il avait prescrit une hausse sans précédent des taux d'intérêt à 20% afin de briser l'inflation qui faisait rage, ce qui avait eu pour effet une récession brutale et un chômage à 10%. Ce traitement de cheval avait suscité la colère des syndicats et de nombreux démocrates. D'un autre côté, il avait apaisé l'inflation et posé les bases de la croissance stable des années 1980 et 1990, faisant de Volcker une figure respectée à New York comme à Washington. Ces dernières années, il s'était montré très critique envers les excès de Wall Street, ce qui lui avait valu un certain nombre d'admirateurs à gauche. Il avait très tôt soutenu ma candidature, et ses avis s'étaient révélés si précieux que je lui avais confié la présidence d'un groupe de conseillers sur la crise économique. Avec son pragmatisme, sa croyance dans l'efficacité du marché autant que dans les institutions publiques et le bien commun, il avait un côté suranné, ma grand-mère l'aurait beaucoup aimé, et après l'avoir reçu en entretien privé dans le bureau ovale, j'ai été convaincu du bien fondé de sa proposition de restreindre la négociation pour compte propre. Mais quand je l'ai exposé à Tim et à Larry, j'ai buté sur leur scepticisme. Ils ont répliqué qu'elle serait difficile à mettre en œuvre et risquerait d'empiéter sur les services légitimes que les banques fournissaient à leur clientèle. Je trouvais leur réponse un peu légère. C'est l'une des rares fois où j'ai eu le sentiment qu'ils faisaient primer le point de vue de la finance sur les faits. Et j'ai continué pendant des semaines à leur casser les pieds à ce sujet. Au début de l'année 2010, alors que Tim craignait de plus en plus que l'élan de notre réforme ne commence à s'épuiser, il a fini par recommander que nous intégrions à notre projet une version de la règle Volcker. « Si ça peut nous aider à faire passer la loi, a-t-il dit, on trouvera bien un moyen de la faire fonctionner. » De la part de Tim, c'était une concession exceptionnelle à l'optique politique. Axe et Gibbs, qui saturaient ma boîte mail de sondages montrant que 60% des électeurs jugeaient mon gouvernement trop tendre avec les banques, ont sauté de joie. Ils ont suggéré que nous fassions une annonce officielle à la Maison-Blanche en présence de Volcker. Je leur ai demandé si le grand public saisirait la portée d'une mesure aussi obscure. « On n'a pas besoin qu'ils comprennent », a répondu Gibbs. « Si ça fout les banques en rogne, il se dira que c'est une bonne chose. » Les paramètres essentiels de notre loi, une fois définis, c'était au président de la Commission des services financiers de la Chambre, Barney Frank, et au président de la Commission bancaire du Sénat, Chris Dodd, tous de 29 ans de congrès à leur actif, de nous aider à la faire passer. C'était un duo curieusement assorti. Barney avait une réputation de fauteur de troubles et était le premier membre du congrès à avoir révélé son homosexualité. Ses grosses lunettes, ses costumes froissés et son fort accent du New Jersey lui donnaient un côté homme du peuple, et il figurait parmi les parlementaires les plus coriaces, intelligents et cultivés du congrès, capables de traits d'esprit cinglants qui faisaient de lui le chouchou de la presse et le cauchemar de ses adversaires. Un jour, quand j'étais étudiant à Harvard, Barney était intervenu pendant un cours et m'avait passé un savon pour avoir posé une question qu'il trouvait manifestement stupide. Moi, je n'étais pas de cet avis. Par chance, il ne se souvenait pas de notre première rencontre. Chris Dodd, quant à lui, avait tout de l'initié aux arcanes de Washington. Impeccablement mis, des cheveux argentés aussi nets et brillants que ceux d'un présentateur de journal télévisé, toujours prêt à balancer un ragot du Capitole ou une histoire irlandaise à dormir debout, il était tombé tout petit dans la politique. Fils d'ancien sénateur, grand ami de Ted Kennedy, et cul et chemise avec quantité de lobbyistes de l'industrie malgré un historique de vote plutôt progressiste. Nous avions noué une relation chaleureuse à l'époque où j'étais au Sénat, fondée en partie sur ses remarques au sujet de l'absurdité de l'institution. « Vous aussi, vous trouvez que ça sonne faux ?» me demandait-il avec un clin d'œil après qu'un collègue avait terminé un plaidoyer enflammé en faveur d'une loi alors qu'il s'échinait à la saper en coulisses. Mais il était très fier de son efficacité en tant que législateur et avait été un des moteurs de lois importantes telles le Family and Medical Leave Act qui régit les congés pour raisons familiales et médicales. Ensemble, ils formaient une équipe fantastique dans laquelle chacun était parfaitement adapté aux pratiques de son assemblée. À la Chambre, la forte majorité démocrate signifiait que l'adoption d'une réforme de la finance ne serait pas un problème. Le défi était plutôt d'empêcher le groupe de se disperser. En plus de maîtriser les aspects législatifs, Barney bénéficiait de la crédibilité nécessaire pour calmer les exigences irréalistes de ses camarades les plus progressistes, ainsi que de l'influence requise pour déjouer les manœuvres des plus enclins au compromis qui chercheraient à diluer le texte au profit des groupes d'intérêt. Au Sénat, où tous les votes étaient bons à prendre, la patience de Chris, sa douceur et sa disposition à tendre la main aux républicains, même les plus récalcitrants, rassuraient la frange conservatrice du Parti démocrate. Il nous a aussi permis d'accéder à des lobbyistes qui, bien qu'opposés au projet de loi, n'avaient pas peur de lui. Malgré ses atouts, il a fallu pour faire avancer ce projet, bientôt surnommé « loi Dodd-Frank », le même type de pinaillage que pour la loi sur la santé, avec un déluge d'accommodements qui me faisait souvent enrager en silence. Malgré nos protestations, les vendeurs de voitures ont été exclus du champ de notre nouvelle agence de protection des consommateurs. Il y avait des concessionnaires automobiles dans toutes les circonscriptions et ils jouaient souvent un rôle central en sponsorisant des équipes sportives et en donnant aux hôpitaux, ce qui faisait redouter un retour de bâton aux plus fervents régulateurs parmi les démocrates. Quant à notre idée de limiter le nombre d'agences supervisant le système financier, elle a connu une fin peu glorieuse. Chaque agence étant subordonnée à une commission parlementaire différente, la CFTC, par exemple, rendait des comptes aux commissions agricoles de la Chambre et du Sénat, les démocrates qui présidaient ces commissions ont ardemment refusé de céder leur pouvoir sur une partie du secteur de la finance. Comme Barney l'a expliqué à Tim, consolider la SEC et la CFTC devait être possible, mais pas aux États-Unis. Côté Sénat, la nécessité d'atteindre 60 votes pour empêcher l'obstruction fournissait à tous les sénateurs un moyen de pression, et nous avons été assaillis de demandes individuelles. Le républicain Scott Brown, récemment sorti victorieux d'une campagne pendant laquelle il avait vilipendé les petits arrangements de Harry Reid pour faire passer la loi sur la santé, paraissait disposé à soutenir la réforme de Wall Street, mais non sans un petit arrangement, à savoir l'exemption de deux banques du Massachusetts qui avaient ses faveurs. Il n'y voyait aucune ironie. Un groupe de démocrates plutôt à gauche a présenté en fanfare un amendement censé rendre les dispositions de la règle Volcker encore plus contraignantes. Seulement, lorsqu'on y regardait de près, il créait des niches pour toute une palanquée d'intérêts, assurances, investissements immobiliers, fiducie et ainsi de suite, très puissants dans les états de ses sénateurs. « Encore une belle journée dans la plus grande assemblée délibérante du monde », disait Chris. Par moments, je m'identifiais au pêcheur dépeint par Hemingway dans « Le vieil homme et la mer », entouré de requins qui grignotaient la prise qu'il s'acharnait à rapporter à terre. Mais les semaines passant, le noyau de notre réforme résistait remarquablement bien au processus d'amendement. Un grand nombre de dispositions introduites par les membres du Congrès ont même amélioré le texte. Une transparence accrue sur la rémunération des dirigeants de sociétés cotées en bourse et sur les agences de notation, et de nouveaux mécanismes de récupération empêchant les cadres de Wall Street de s'en tirer avec des primes de plusieurs millions en récompense de leurs pratiques discutables. Grâce à la coopération sans faille de nos deux parrains, la séance de conciliation des différences entre la Chambre et le Sénat a été épargnée par les querelles intrapartisanes que nous avions connues lors des négociations autour de la loi sur la santé. Et ainsi, à la mi-juillet 2010, le texte ayant remporté 237 voix contre 192 à la Chambre et 60 contre 39 au Sénat, trois républicains votant en faveur du texte dans chaque assemblée, nous avons pu organiser à la Maison-Blanche une cérémonie de promulgation du Wall Street Reform and Consumer Protection Act, dit loi Dodd-Frank. C'était un triomphe de taille, la plus importante refonte des règles de la finance américaine depuis le New Deal. La loi avait ses défauts et ses compromis regrettables, et elle n'allait évidemment pas faire disparaître l'ineptie, la cupidité, le court-termisme et la malhonnêteté qui régnaient à Wall Street. Mais en mettant en place un meilleur code de la construction, des détecteurs de fumée et un système d'extincteurs automatiques, comme Tim aimait à le décrire, Dodd-Frank allait encadrer les pratiques imprudentes, donner aux régulateurs financiers les instruments pour éteindre les incendies avant qu'ils ne deviennent incontrôlables et diminuer la probabilité de crise comme celle que nous venions de traverser. Et avec le nouveau Bureau de protection financière des consommateurs, CFPB, les ménages américains disposaient désormais d'un puissant allié dont l'action concourait à rendre le marché des crédits plus transparent et leur permettrait de constituer une vraie épargne pour acheter une maison ou une voiture, affronter une urgence familiale, payer les études de leurs enfants ou préparer leur retraite. Mais si mon équipe et moi pouvions être fiers de ce que nous avions accompli, nous demeurions conscients d'une chose devenue évidente avant même l'adoption de la loi. Les réformes historiques de Dodd-Frank n'allaient pas nous aider politiquement. Malgré le zèle de Favs et de toute l'équipe qui écrivait mes discours, il était difficile de mobiliser l'opinion autour de termes comme « compensation des dérivés » et « interdiction des négociations pour compte propre ». L'essentiel des améliorations apportées par cette loi, plus axée sur la prévention que sur le gain d'avantages tangibles, resterait inaccessible au grand public. Les électeurs ont apprécié l'idée d'une agence de protection des consommateurs, mais il faudrait du temps au CFPB pour se mettre en place. Or, c'était maintenant que la population avait besoin d'aide. Entre les conservateurs qui fustigeaient dans cette loi l'assurance de sauvetage financier à venir et un pas de plus vers le socialisme, et les progressistes qui regrettaient que nous n'ayons pas fait davantage pour refaçonner les banques, les électeurs pouvaient aisément conclure que tout le battage autour de Dodd-Frank n'avait été finalement que le remue-ménage habituel de Washington. D'autant que, au moment où la loi a été votée, tout le monde avait plutôt envie de parler du trou béant qui bouillonnait au fond de l'océan.